quoi tu penses?
Plus ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda, votre rendez-vous cinéma du mercredi bien sûr et vos invités. Aujourd'hui on reviendra sur plusieurs décisions du tribunal administratif concernant les irrigants, ce sera en seconde partie d'émission. Mais tout de suite un peu d'humour et de rire avec Mehdi et Lisa de l'association La Locomédie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous présenter un petit peu cette association. Alors d'abord, l'un et l'autre, peut-être, comment vous êtes arrivés à l'humour?
Je commence.
Allez-y, Mehdi.
Ah, merci. Tu me vois en plus, ça me fait trop plaisir. Moi, c'était l'humour, c'était un truc, un peu l'histoire bête classique. Je faisais toujours rire mes amis, tout ça. Et j'ai rencontré quelqu'un, une fois, un de mes boulots que j'avais avant, qui était acteur et qui m'a dit « Eh mais quand tu parles et tout, c'est bien, t'es à l'aise, t'as pas peur de parler avec les gens, tu fais rire les gens, tout ça. » Et il m'a un peu poussé pour que je fasse ça. Et lui, il a créé avec des humoristes à l'époque la Loco Comedy Club, donc le comedy club qui a la locomotive sur la route de la gare. Et en fait, il m'a motivé. Du coup, j'ai fait un passage là-bas, ça s'est bien passé. Puis j'ai scotché les humoristes de Poitiers. Maintenant, je suis ami avec eux. Et on a créé une asso et on a créé un deuxième comedy club et on s'amuse. Et moi, je suis très heureux de faire ça de ma vie.
Elisa ?
Un peu pareil. On me disait que j'étais drôle, ce qui était plutôt vrai avec mes amis en tout cas. Et j'ai rencontré une humoriste qui s'appelle Clémy Deluxe, qui est humoriste surtout sur Paris, et qui m'a dit « Monte sur scène, ça me manque de femmes aussi ». Et donc je suis montée sur scène à la suite de ses conseils, et ça a très bien marché. J'ai gagné un tremplin de l'humour à Chauvigny, pendant le One Man Show, le festival de l'humour là-bas, ce qui m'a permis de continuer, de m'élancer un peu là-dedans. Maintenant j'ai rejoint l'association avec les garçons pour les Comedy Clubs de Poitiers, et je prépare mon spectacle pour mars 2025, du coup, à Chauvigny, au Théâtre Charles Trenet, le 22 mars. Donc, venez nombreux si vous aimez rire, un peu.
Est-ce que vous êtes un peu formé? Comment on se lance c'est le
star, oui.
Tu t'es formé, toi, Mehdi?
Alors, beaucoup de... On discute avec les autres humoristes pour savoir comment on fait. On peut regarder, mais ça existe très peu sur Internet, des tutos, tout ça, ou même juste des humoristes qui parlent de leur façon de travailler, mais on peut trouver en cherchant un peu. Par exemple, Roman Frécinet, qui est un humoriste français très connu, qui, lui, c'est celui qui parle le plus, j'ai dire, de la façon d'écrire. Mais il y a aussi un truc que tous les humoristes connaissent, qui s'appelle Comedy Bible, qui est un livre qui est écrit par Judy Carter, une américaine, qui a écrit un livre pour savoir faire rire. Et ça paraît bizarre dit comme ça, et on ne croirait pas, mais pourtant, quand on lit ce livre, on se rend compte qu'en fait, tous les grands humoristes l'ont lu. Et en fait, quand on lit ce livre de bout en bout, même là encore, en bas, je le lisais, on se rend compte qu'on peut écrire des blagues, et sans forcément être drôle de base, juste en suivant un schéma. Et c'est une technique comme une autre, comme l'écriture d'un roman, ou d'une nouvelle, ou quoi que ce soit d'autre, ou de théâtre, tout ça. C'est des techniques, voilà, tout simplement.
Oui, puis il y a l'exercice, en fait, le faire et le refaire.
Ouais, aussi.
Plus on passe sur des scènes et plus on s'entraîne à dire nos textes, mieux c'est. Avec l'association aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se réunir pour écrire entre nous, prendre les idées des uns des autres, voler des blagues, comme on dit. et en fait, c'est hyper enrichissant de voir les points de vue des autres et de pouvoir rajouter des blagues et de tester, de voir si ça marche. C'est du test and retry, en fait, finalement.
Ça, c'est le test avec le public aussi. Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que celle-ci marche ou marche pas? On l'enlève pour le prochain ou on en rajoute une autre?
Ça, ouais.
Et le fait justement de se mettre en association, alors que vous pouviez peut-être continuer comme ça à être sur les scènes poitevines, qu'est-ce que ça apporte? Alors, ce partage?
Oui, ce partage. Et puis, alors moi, j'ai rejoint très récemment l'association. Et puis, je les avais prévenus que je n'avais pas beaucoup de temps, que je n'avais pas trop m'investir. Au final, j'adore m'investir. Et au contraire... on a l'impression de porter quelque chose d'intéressant et d'important pour les gens, parce que je trouve qu'en ce moment, surtout aujourd'hui, en ce jour de deuil, faire rire les gens, c'est important. Et si on peut les réunir, les faire marrer et puis faire grandir l'association comme ça, c'est hyper enrichissant, finalement.
Vous êtes combien aujourd'hui dans l'association ?
On est 5. On était 5 avant, mais il y en a un qui a quitté, Elisa qui est revenue, donc on est toujours à 5. Et ouais, j'ai oublié la question. Oui, si, l'association, ça nous apporte quoi ? Bah, surtout déjà, c'est tout bête, mais déjà les deux comédie clubs, bah, c'est nous qui avons créé ça. Donc du coup, les scènes où on peut jouer, bah, c'est nous qui les avons créées, parce que sinon on ne pouvait pas jouer. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la base, la locomotive, enfin qu'il y avait un comédie club qui ouvert la locomotive, c'est parce qu'avant il y avait la caverne comédie club qui était fait par Paul Minereau. D'ailleurs, il refait ça. Enfin, je fais sa pub. Enfin bref, et ça s'est arrêté pour des raisons que j'ignore, je sais pas du tout. Moi, j'étais pas là à l'époque. Et il a et du coup, bah, les humoristes qui restaient, donc Thibaut, Nathan, Rémi, Simon, voulaient vraiment jouer. Ça les agaçait de faire tout le temps de la route pour aller à La Rochelle, à Bordeaux, tout ça. Route qu'on fait encore d'ailleurs maintenant. Mais en plus de ça, du coup, on s'est offert des tribunes à Poitiers pour pouvoir jouer, s'amuser. Et franchement, c'est sympa.
Oui, et puis on invite toujours des humoristes, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être un de nous qui joue de temps à autre, ou deux, mais il y a des humoristes de Poitiers en priorité, et aussi d'autres villes qui peuvent venir découvrir le Comedy Club, jouer. Ce qui est intéressant pour les artistes, c'est qu'avec les lieux qu'on a, avec lesquels on a des, bah, les projets, ils ont une boisson et le repas offert, donc bon, ils ont déjà ça, de, parce que ça fait des frais hein, de se déplacer, donc au moins ils peuvent manger à leur faim. Et puis bah, on met en place l'entrée libre et le prix conscient au chapeau. Enfin, le prix au chapeau plutôt. Donc les gens, s'ils peuvent, s'ils veulent, mettent un petit peu d'argent dans le chapeau pour rémunérer les artistes après leur show.
Et donc les lieux dans lesquels vous avez réussi à vous implanter, c'est où vous êtes? Oui, en partenariat, c'est ça?
Oui.
Alors les deux lieux, c'est la locomotive qui est un tiers-lieu à côté de la gare, boulevard du Grand Serre, et le Caribou Café en centre-ville. Voilà, à qui on fait aussi... Le spectacle tous les vendredis. Donc le Caribou Café, c'est tous les vendredis soirs à 19h30. Et la locomotive, c'est deux jeudis par mois à 20h. C'est ça ?
Ouais, c'est ça, oui, oui, tout à fait.
C'est bon, elle est opérationnelle.
C'est bon, je peux être gardée dans l'association ?
Ouais, si tu veux. En plus, t'es la MC vendredi. Donc,
ouais, c'est vrai. Mais vendredi, soirée spéciale filles, que les filles sur scène.
Eh bien, justement, on vous laisse la parole. Vous avez prévu de nous teaser un petit peu. Cette ah oui. soirée.
C'est vrai.
Oui, je leur ai demandé, tant qu'à faire, de nous préparer un petit quelque chose pour cet émission. Vous proposer.
Alors, bah, Mehdi, lui, il est raciste, mais moi, j'ai un bon humour.
Je ne suis pas raciste, je suis arabe. Du coup, j'ai le droit d'être raciste envers ma communauté.
Ah, d'accord. Excuse-moi. Ouais, alors moi, vendredi soir, je vais présenter la soirée et je vais aussi jouer un petit peu. Et je vais faire un sketch qui va parler du démarchage téléphonique. Je pense que ça parle un peu à tout le monde. Et parce qu'en fait, moi, j'ai développé plein de techniques pour que les démarcheurs raccrochent vite. Et le point commun entre toutes ces techniques, c'est qu'elles m'amèneront toutes en enfer, en fait, clairement, je pense. Et surtout, ce vendredi, je vais faire jouer les gens. Parce que grâce à ces techniques horribles, j'ai développé un jeu. Et c'est vraiment sur le même principe de quand on vous montre une photo de famille nombreuse, vous devez dire si c'est Kato ou Kassos. Bah là, ce sera pareil, mais avec un son. Parce que quand maintenant, je me fais appeler au téléphone, je fais aboyer ma cousine. Moi, ouais, je sais, c'est hyper bizarre, dit comme ça. Et en fait, elle fait hyper bien le bichon maltais. Mais uniquement le bichon maltais. Et donc, j'ai développé un jeu où les gens doivent deviner si c'est ma cousine ou un bichon qui aboie.
Ok.
Donc, venez vendredi pour jouer avec nous.
Ça promet. Et vous, Mehdi, qu'est-ce que vous nous avez concocté ?
Alors, moi, étant donné que, malheureusement pour moi, je ne suis pas une femme, je ne jouerai pas vendredi, mais j'ai quand même préparé un truc, enfin, un sketch que j'ai. J'ai décidé de vous parler de quelque chose d'horrible qui s'est passé cette nuit. On se souvient tous. J'ai des aftes, voilà. Voilà, mon sketch va devenir politique, je préfère le dire, parce que pour moi, ce n'est pas un détail dans l'histoire, les aftes. Elles remettent énormément de choses en question. Tout d'abord, c'est quoi les aftes ? C'est une maladie ou une petite blessure ? Enfin, je sais pas, je me pose la question. Et surtout, comment ça s'écrit aft ? Et le plus important à mes yeux, on dit un aft ou une aft ? Parce que depuis le début, je le mets au pluriel parce que j'en sais rien et je veux pas passer pour un con. Mais en vrai, je sais pas, on dit un, une, yel.
Yel aft.
Bon, en vrai, j'ai quand même regardé pour le sketch. Figurez-vous qu'on dit un aft. Et ça fait 23 ans de ma vie que je suis dans l'erreur en disant une aft. Voilà. j'ai perdu ma ligne. C'est très embêtant, car à chaque fois que je mange, eh ben, j'ai mal. Donc c'est très chiant, parce que manger, c'est en plus d'un plaisir, c'est un besoin vital. Un peu comme quand on rencontre une personne magnifique, tu vois, et qu'au moment de l'embrasser, elle pue de la gueule. Donc c'est cool, mais ça laisse un goût amer dans la bouche, quoi. C'est pas sympa de fou. Et c'est une douleur qui est vraiment fourbe, un aft du coup. Tu sais, tu te mets un petit peu à la personnifier, à la voir devant toi, parce que tu veux la taper, tu vois. J'en suis à un point où je veux me mettre un coup de poing dans la bouche. Mais c'est, tu te rends compte que la violence ne résout pas tout, un petit peu comme quand on a une mouche posée sur les couilles. On se dit, finalement, je suis pas quelqu'un de violent. Et là, j'en suis vraiment à bout des aftes, vraiment, j'en peux plus. Écoutez, je vais être honnête avec vous, j'en suis à un point où je pense à manger par le cul. Voilà, c'est bizarre dit comme ça, mais en fait, je réalise surtout quelque chose, c'est que les aftes, c'est un petit peu comme les hémorroïdes, mais dans la bouche.
Merci pour cette mise en appétit.
De rien.
Et bon appétit à ceux
c'est
qui
ça.
Mangent, bien
et
sûr.
Et bon appétit à tout le monde. Pour ce midi.
Merci beaucoup à tous les deux, donc Mehdi et Lisa, donc vous représentez l'association La Locomédie, donc vous êtes au Caribou Café et à La Locomotive. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés dans Séquence Midi.
Merci beaucoup.
On continue en musique avec Marine Jean et ce titre Juice. On accueille maintenant Aude Thévenet-Bréchaud, magistrate référente en communication au tribunal administratif de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous expliquer des décisions récentes du tribunal, un ensemble de décisions d'ailleurs concernant les irrigants et donc ce dossier brûlant dans la région donc, des bassines et de la question de l'eau pour les agriculteurs. Alors, tout a commencé par une décision déjà de la préfecture d'accorder un peu plus d'eau aux irrigants. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
Alors voilà, effectivement, donc pour reprendre un peu la chronologie des faits, les préfets donc de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vienne et même de la Vendée, parce qu'on est à l'échelle là du bassin versant du Marais Poitevin, avaient délivré le 9 novembre 2021 une autorisation pluriannuelle de prélèvement à l'établissement public du Marais Poitevin, qui est un organisme de gestion chargé de ensuite répartir les autorisations de prélèvement entre les irrigants. Et donc, cette décision du 9 novembre 2021 a été annulée par notre tribunal le 9 juillet 2024 pour le fait que cette autorisation accordait des volumes, autorisait des volumes de prélèvement qui ont été jugés excessifs au regard des différents schémas d'aménagement et de gestion concertée de l'eau dans ces bassins versants.
Et qui a saisi votre tribunal pour justement faire annuler cette décision de la préfecture de novembre 2021 ?
Alors là, en l'espèce, c'est l'association Nature Environnement qui avait déjà en fait saisi notre tribunal il y a quelques années, puisque en fait les préfets avaient donc prennent régulièrement ces autorisations. Qui autorise donc l'irrigation. Et en la décision de 2016 des préfets avait déjà été annulée par notre tribunal en 2019 et la décision du tribunal avait été confirmée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux en 2021. Donc en réalité, bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans ce qu'on a jugé cette année puisqu'on a constaté simplement que finalement les préfets avaient repris l'autorisation qui avait été annulée quelques années auparavant avec des volumes identiques.
Et alors c'est allé plus loin parce que non seulement donc, vous avez annulé au tribunal cette décision des préfets, ça c'était en juillet, avec obligation de mettre un terme à ces prélèvements.
Alors en réalité, l'annulation, si on s'était contenté d'annuler, il n'y avait plus aucune... plus aucun volume prélevable. Donc, ce qu'a fait le tribunal, c'est que pour permettre la poursuite de l'irrigation, en attendant qu'une nouvelle autorisation soit prise par les préfets, le tribunal a délivré une autorisation de prélèvement provisoire qui permet en fait de continuer à assurer. Et donc, le tribunal a délivré cette autorisation provisoire et a ordonné à l'établissement public de définir des plans de répartition entre irrigants. Et à l'État ensuite de les approuver. Et ce, dans des délais. Donc, pour ce qui concerne les volumes prélevables en été, le délai, c'était jusqu'à la fin du mois de juillet. Et pour les volumes prélevables sur la saison hivernale, le délai, c'était un peu plus long. C'était jusqu'en septembre.
Oui, jusqu'à la rentrée. Voilà. En fait, ils avaient des délais assez courts hein, pour réagir et créer en fait, des nouveaux accords, en fait, entre eux.
Alors, en réalité, pour répartir les volumes prélevables par irrigant. Alors, donc, ce qui existait auparavant, c'est-à-dire que ces plans existent, c'est simplement que les volumes sont excessifs. Voilà. Donc là, il fallait, en fait, diminuer le volume global et les volumes par irrigant.
Et donc, vous avez été à nouveau saisi par, là aussi, les associations environnementales, parce que ces délais n'ont pas été respectés à nouveau.
Alors, effectivement, donc, le 9 juillet, le tribunal avait en fait, fixé une astreinte à l'établissement public, c'est-à-dire en fait, une contrainte financière en cas de non-respect des délais impartis. Et donc, par une décision ensuite du 9 octobre 2024, donc cette année, le tribunal a constaté que l'injonction qu'il avait faite à l'établissement public n'avait pas été respecté, puisque l'établissement public n'a pas, ne justifie pas avoir fait de nouveaux plans de répartition entre irrigants. Et donc, le tribunal a condamné l'établissement public à payer l'astreinte qui était due en cas de non-respect de ces délais, donc en l'espèce un peu plus de 6 000 euros.
Et donc là, donc on a vu que c'était 3 ans quand même le délai entre la décision de la préfecture et puis le jugement. Par contre, là, c'est allé assez vite. C'est plus simple pour le tribunal administratif quand il y a déjà eu des décisions. Juste si elles ne sont pas appliquées, on peut revenir dessus assez rapidement pour condamner les personnes.
Oui, alors en fait, le jugement du 9 juillet avait prévu dans son dispositif, hein, donc avait annulé l'autorisation de prélèvement et puis avait enjoint avec un délai et une astreinte. Donc ensuite, il suffit de vérifier voilà, le jour J, est-ce que l'injonction a été respectée et sinon, eh bien, on condamne à l'astreinte qui était prévue. Donc ça, en réalité, c'est pas effectivement, ça peut se faire très vite et en l'espèce, ça s'est fait très vite. Et justement, l'intérêt d'aller vite dans ce cas-là, c'est bah, de contraindre à l'exécution de notre jugement, puisque le jugement a force obligatoire, mais bon, bah, on le voit, voilà, parfois il n'est pas exécuté, en tout cas pas dans les délais impartis.
Et puis il y a tous les irrigants qui étaient donc concernés en fait par ces décisions, qui sont rentrés dans la procédure aussi.
Alors voilà, donc ça c'est la troisième partie de cette affaire, donc là qui a donné lieu à une audience le 21 octobre, enfin une décision du 21 octobre. Donc là c'était en fait une procédure qu'on appelle en tierce opposition. Alors c'est en l'espèce des irrigants qui estimaient qu'ils n'avaient pas été représentés dans l'instance du 9 juillet. Et qui donc ont formé ce recours pour demander au tribunal de rejuger en fait l'affaire. Donc en l'espèce, il y avait un peu plus de 800 irrigants hein, qui ont fait ce pourvoi et qui estimaient qu'en fait ils n'étaient pas représentés par l'établissement public du Marais Poitevin, qu'ils avaient des intérêts propres, qui n'avaient pas pu faire valoir en fait dans l'instance.
Et là encore, le tribunal n'est pas allé dans leur sens.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, le tribunal a constaté que l'établissement public du Marais Poitevin, en fait, agissait alors, pour le compte de ses irrigants. Alors, donc ça, le tribunal ne l'a pas inventé. Hein. Il a repris dans les dispositions réglementaires applicables. En fait, l'établissement public du Marais Poitevin était un organisme de gestion collective, donc c'est prévu, pareil, de façon réglementaire et législative, qui agit pour le compte des irrigants et donc qui, en fait, représentent leurs intérêts, puisque c'est juste cet établissement public, en fait, qui est bénéficiaire de l'autorisation délivrée par les préfets et qui ensuite a la charge de répartir les plans de répartition entre les irrigants. Donc, le tribunal a considéré que, effectivement, à l'instance du 9 juillet, le fait que l'établissement public du Marais Poitevin soit présent à l'instance, c'était suffisant pour représenter l'ensemble des irrigants qui, en fait, sont représentés au sein de cet établissement public hein, dans les commissions qui, justement, travaillent à la répartition de ces plans.
Donc, la suite, c'est qu'éventuellement, les requérants, enfin, les irrigants peuvent encore faire appel de ce jugement. Donc, peut-être que oui. La bataille judiciaire n'est pas terminée. Je ne sais pas s'ils ont déjà fait appel.
Alors, tout d'abord, pour rappeler qu'il y a eu un appel sur le jugement du 9 juillet. Donc là, c'est l'État qui a fait appel sur notre jugement du 9 juillet. Le ministère de la Transition écologique qui a fait appel donc début septembre auprès de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Et donc cette instance en appel est ouverte. Et effectivement, en parallèle, les irrigants qui ont fait cette tierce opposition peuvent aussi faire appel auprès de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ou simplement se rajouter, entre guillemets, à l'appel qui est déjà ouvert dans le cadre de la contestation du jugement du 9 juillet.
Merci beaucoup, Otevne Bréchaud. Donc, ça nous a permis de comprendre un petit peu ce nouvel épisode dans un peu la guerre de l'eau que subit notre région. Et donc là, c'est plutôt les associations type Nature Environnement qui ont remporté une bataille, mais a priori, pas encore la guerre. Merci beaucoup, Otevne Bréchaud, magistrate référente en communication au tribunal administratif de Poitiers. Bonne journée.
Merci. Merci, vous aussi.
On continue pour vous annoncer que demain, dans Séquence Midi, ce sera le lancement de la promotion 2024-2025 des services civiques d'unicité. Ils vont être déployés dans toute la Vienne pour des services aux populations. Et maintenant, on accueille Candice Mottet-Debert, médiatrice au cinéma Le Dietrich. Bonjour Candice.
Bonjour.
Tu veux nous mettre au boulot?
Ouais, je vais vous mettre au boulot. Ouais. C'est le nouveau documentaire de Gilles Perret et de François Ruffin. Donc François Ruffin, député de gauche, et Gilles Perret, cinéaste, hein, qui ont déjà fait plusieurs films. Merci Patron, qui avait notamment reçu plusieurs Oscars, mais également Je veux du soleil sur les gilets jaunes, Debout les femmes. Alors ils ont leur propre style de documentaire très particulier qui est le documentaire de gauche ultra caustique, drôle et en même temps qui fait du bien au moral. Ils reviennent avec Au boulot. Alors c'est pas n'importe quel titre, parce qu'ils se sont donné une mission, réinsérer les riches dans la société. On part d'un postulat bien sûr très drôle, je vous lis le synopsis. Mais c'est quoi ce pays d'assistés et de feignasses? Sur le plateau des Grandes Gueules, l'avocate parisienne Sarah Saldman s'emporte. Le SMIC, c'est déjà pas mal. D'où l'invitation du député François Ruffin. Je vous demande d'essayer de vivre, Madame Saldman, pendant 3 mois avec 1300 euros. Ce à quoi elle répondra, admettons, une semaine, ce sera déjà pas mal. Alors, est-ce qu'on peut réinsérer les riches dans notre société? C'est une comédie documentaire qui met à l'honneur ceux et celles qui tiennent le pays debout. Parce qu'évidemment, ce n'est pas cette chroniqueuse ou ces chroniqueurs qu'on voit foisonner sur les plateaux télé. Le sujet du film, c'est bien sûr toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien en France. Dans le cœur de ce projet qui est de base voué à l'échec, car Ruffin n'est pas naïf, on comprend que la bourgeoisie est un mal incurable. Un mal qui ne mérite que très peu d'attention. Il dit « Sarah Salman, on s'en fiche, le sujet, c'est les gens ». Et comme ils savent le faire, les cinéastes le leur rendent bien. Dans ce carnaval où les masques s'inversent, Ruffin et Perret arrivent à recueillir les miettes d'humanité disséminées ça et là pour rendre à la vie sa simplicité, sa dureté et sa part de joie. C'est un film qui fait du bien au moral. Il y a notamment des scènes ultra caustiques où elle emmène Ruffin manger au restaurant et elle lui propose un croque-monsieur à 54 euros et il comprend à quel point les chroniqueurs télé sont complètement déconnectés de la vie actuelle. Mais bien sûr, ça va être, comment dire, de toutes les personnes qui vont croiser dans le film qui vont être intéressantes, des aides-soignants, des éboueurs, etc. Ça s'appelle Au boulot, c'est vraiment dans la même veine que tous leurs autres films, je vous incite fortement à venir le voir, c'est dès aujourd'hui au cinéma Le Dietrich.
Et puis un film qui parle de MeToo en Espagne.
Tout à fait, alors avant que le terme MeToo existe, hein, mais on l'explique comme ça pour que ça parle bien à tout le monde, c'est un film qui s'appelle L'affaire Nevenka. C'est un drame historique de Isiar Bolaín, donc c'est un drame espagnol qui sort sur nos écrans, il sort pas dans beaucoup de salles en France, mais nous on a tenu à le sortir. À la fin des années 90, Nevenka Fernandez, c'est une élue qui a 25 ans et qui est conseillère municipale auprès du maire de Ponferrada, qui est charismatique et populaire, qui s'appelle Ismael Alvarez. Tout ça est une histoire vraie. C'est le début d'une descente aux enfers pour Nevenka, qui va être manipulée et harcelée pendant des mois par le maire. Et pour s'en sortir, elle va décider de dénoncer ses agissements et lui intenter un procès. C'est donc un drame historique qui reprend une histoire vraie. Nevenka va être la première, on va dire, donc on dit MeToo, mais bien sûr on est dans les années 90, à s'opposer à son patron et son harceleur, et qui bien sûr va être sous le feu des médias en Espagne. C'est une histoire qui est peu connue chez nous, mais qui a vraiment façonné un peu le féminisme en Espagne. En s'emparant de l'histoire vraie de Nevenka Fernandez, la réalisatrice Isiar Bolaín, qui a également fait les films Ne dis rien et Les Repentis, livre une anatomie quasi chirurgicale de l'emprise morale et de ses mécanismes insidieux. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est que Nevenka Fernandez, qui est une femme politique et universitaire, aujourd'hui en Espagne, elle est une des figures du féminisme contemporain. Donc voilà, on trouve que c'était un bel hommage, c'était un biopic très intéressant, donc sous le format drame historique, et c'est dès aujourd'hui au Dietrich. Et j'en profite, pardon, pour dire qu'on a une avant-première dimanche, parce qu'il y avait, donc on parlait de la guerre de l'eau juste avant, on fait l'avant-première du documentaire qui s'appelle Direct Action, dimanche 10 novembre à 16h, en présence de deux réalisateurs, enfin de ces deux réalisateurs, et c'est un documentaire qui va suivre au plus près de la lutte la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et Sainte-Soline. Donc voilà, c'était en réponse, donc l'avant-première sera dimanche 10 à 16h.
Merci Candice pour toutes ces recommandations. Tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Créer un jeu vidéo en 3D, c'est à l'espace Mendes France, à l'aide de l'IA, modéliser personnages et décors, découvrir l'interface de programmation assistée pour les déplacements des personnages dans le décor et afficher le compteur de points. La recette pour une initiation à la conception d'un jeu vidéo en 3D. C'est pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans et le plein tarif est de 15 euros. Du 6 au 8 novembre, la Maison des sciences de l'homme et de la société, la MSHS de l'Université de Poitiers, vous invite au colloque Saint-Exupéry, la fabrique des héros. Il aura lieu donc à la MSHS pendant 3 jours. La conférence inaugurale, c'est aujourd'hui à la médiathèque François Mitterrand. L'entrée est libre et gratuite à 18h30. Saint-Exupéry, l'héroïsme, une quête de vérité par Alban Cerisier, qui est notamment responsable du patrimoine littéraire historique de Gallimard. Un verre de l'amitié sera offert à l'issue de la conférence. Expérimentation visuelle, installation, exposition, films rares et inédits, performance, cinéma performé. Retrouvez le festival OFNI pour sa 22e édition du 6 au 10 novembre dans différents lieux de Poitiers. Et ça commence aujourd'hui donc avec la soirée d'ouverture. Un ciné-live performance par Jan Kulka de la République tchèque. C'est à la Maison des étudiants à 20h30. Sur Pulsar à 18h, sur Pulsar le mercredi. Ça y est, je n'ai plus le programme. Il est marqué un peu trop loin de moi, mais ce n'est pas grave. Vous le retrouvez sur notre site internet. Toute la grille des programmes est bien sûr en ligne. Merci Angélique pour la réalisation technique de cette émission. Et on se quitte avec Baku, What is this feeling? C'est l'album Nowhere. Bonne écoute, à demain. What is this feeling that I feel? They think I have inside. Could be I found you love, someone you I can confide. The joy I had is fading now. Pain takes the place. The
memories of the bus taken over by a new face.
Des étoiles en plus.